VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Actualité ici aux États-Unis. Les deux candidats présumés à l'élection présidentielle de novembre ont annulé leurs meetings électoraux prévus aujourd'hui après la tragédie d'hier soir à Dallas, au Texas, où 5 policiers ont été tués et 7 autres, ainsi que 2 civils blessés durant des manifestations antiracistes suite à la mort de 2 Noirs tués par la police cette semaine. La démocrate Hillary Clinton devait se rendre en Pennsylvanie avec le vice-président Joe Biden et le milliardaire républicain Donald Trump à Miami, en Floride. À Dallas, c'est un tireur isolé, maintenant identifié comme un certain Micah Xavier Johnson, qui a ouvert le feu sur les policiers. Ce sniper, réfugié sur un bâtiment, a été finalement abattu par la police aujourd'hui à l'aube à l'aide d'un robot télécommandé porteur d'une bombe. 3 personnes sont encore en garde à vue. Selon la police, avant de mourir, le sniper a dit vouloir tuer des Blancs. Il a dit qu'il leur en voulait, en particulier les policiers, à cause de la mort des 2 Noirs tués par la police cette semaine. À Varsovie, en Pologne, le président américain Barack Obama a dénoncé des attaques haineuses, calculées et méprisables. Pour le point sur la situation en ce moment à Dallas, écoutons Johnny Tiburce Twaboy, un centrafricain habitant la grande métropole du Texas.
Tout est encore tendu au niveau du centre-ville de Dallas où les actions policières ont été menées. Les snipers, un a été tué. Le centre-ville est totalement quadrillé. Depuis les crimes qui ont eu lieu dans la Louisiane et aussi dans le Minnesota, les réactions qui a suscité les organisations de ces manifestations dans beaucoup de grandes villes américaines, dans la ville de New York et effectivement ici à Dallas. La réaction des Noirs était vive vers la fin de l'après-midi. La communauté noire vivant pour la plupart dans le sud de Dallas, ils se sont avancés vers le centre-ville qui a commencé. Alors c'est là que ces snipers, disons ces tireurs d'élite, ont ouvert le feu sur la police.
Johnny Tiburce Twaboy, un centrafricain résident à Dallas, au Texas. Afrique maintenant, le Soudan du Sud marque demain le 5e anniversaire de son indépendance. 5 soldats de l'armée loyale au président Salva Kiir ont été tués hier soir dans un accrochage à Djouba avec des troupes de l'ex-rébellion. Les précisions d'Aouzouma Compaoré.
Les affrontements ont continué aujourd'hui à Djouba. Hier, 5 soldats de l'armée loyale au président Salva Kiir ont été tués dans des combats contre les éléments de l'ex-rébellion du vice-président Riek Machar. Le plus jeune pays du monde marquera demain samedi son 5e anniversaire. Le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de célébration cette année. La guerre civile déclenchée en 2013 a plongé le pays dans une crise grave. L'accord de paix, signé en août 2015, ne tient qu'à un fil. À la situation tendue s'ajoute une économie en ruine. Environ 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer et plus d'un tiers de la population continue à dépendre d'une aide alimentaire d'urgence.
Politique en RDC maintenant, Thomas Perriello, l'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, a rejeté en bloc les critiques émises par le porte-parole du gouvernement congolais à l'égard de ses partenaires occidentaux. Pour M. Perriello, Washington ne soutient pas un candidat ou un parti, mais simplement le droit du peuple congolais à continuer de jouir d'une stabilité constitutionnelle. Et toujours concernant la RDC, l'ONU avertit que sans un sérieux dialogue politique national, les tensions politiques actuelles dans le pays pourraient dégénérer en une crise sévère, voire même violente. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jan Eliasson, a souligné que les tensions politiques augmentaient en prélude aux élections présidentielles et législatives envisagées par la Constitution. La polarisation politique et le mécontentement public sont alimentés par les retards dans le processus électoral, le débat autour du respect de la Constitution et les restrictions croissantes concernant l'espace démocratique, a expliqué M. Eliasson lors d'un briefing hier devant le Conseil de sécurité. Il y a de grandes craintes au Congo selon lesquelles le président Joseph Kabila, qui doit quitter le pouvoir à la fin de l'année, pourrait retarder les élections afin de se cramponner au pouvoir. La Cour constitutionnelle de la RDC a au demeurant décidé en mai que le président et les membres du Parlement pouvaient rester à leur poste jusqu'à l'installation de nouveaux élus. M. Kabila a proposé la tenue d'un dialogue national, mais pas d'accord jusqu'ici sur ce thème et qui va y participer. L'opposition a exprimé de la réticence à ce sujet. Le représentant permanent du Congo, Ignace Gata Mavita, a démenti que l'espace politique se rétrécisse dans son pays et souligné que son gouvernement veut organiser des élections libres conformément à tous les critères internationaux dans un climat apaisé.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Angola, le président angolais José Eduardo dos Santos est l'unique candidat à la présidence du MPLA. C'est ce qu'a décidé le comité central du parti au pouvoir. Nouvelle citée par les médias d'État congolais. Les précisions de Michel Joseph.
Cette annonce met fin aux spéculations selon lesquelles le chef de l'État angolais pourrait laisser cette place à quelqu'un d'autre. Au pouvoir depuis 1979, le président dos Santos avait fait part en mars dernier de son intention de quitter le pouvoir en 2018 sans fournir de raison. Il n'avait rien dit non plus concernant son éventuel successeur. Le congrès du MPLA, qui élira le chef du parti, se tiendra au mois d'août, suivi en fin 2017 d'élections générales. Le leader du parti, vainqueur de ces élections, deviendra le président de la République. Principal producteur africain de pétrole, l'Angola a été sérieusement affecté par la chute mondiale des cours de l'or noir, ce qui s'est traduit par une pression accrue sur le kwanza, sa monnaie nationale, avec une inflation galopante. Après avoir sollicité l'aide du Fonds monétaire international, les autorités angolaises ont indiqué la semaine dernière qu'elles mettaient fin au pourparlers avec le fonds. Certains analystes craignent maintenant une récession ainsi qu'une crise de la dette en Angola.
Au Burundi, Human Rights Watch dénonce la torture des opposants par les services de renseignement. L'ONG internationale de défense des droits humains basée à New York parle aussi du comportement de miliciens tortionnaires proches du pouvoir qui procèdent à des arrestations illégales. Écoutons les précisions de la chercheuse principale de Human Rights Watch, Karina Tersakian.
Les jeunes du parti au pouvoir, ceux qu'on appelle les Imbonerakure, qui sont des membres de la Ligue officielle des jeunes du parti au pouvoir, travaillent étroitement avec les services de renseignement et avec la police pour intimider, torturer et commettre d'autres exactions envers des personnes soupçonnées d'être des opposants. Les Imbonerakure, eux aussi, se sont rendus responsables de graves exactions. Les Nations Unies ont compté 651 cas de torture entre avril 2015 et avril 2016, mais nous pensons que le chiffre réel serait bien supérieur.
Karina Tersakian, chercheuse principale de Human Rights Watch. On passe à l'Afrique de l'Ouest, au Mali. Réaménagement technique du gouvernement. La taille de l'équipe gouvernementale passe de 32 à 34 membres et les représentants des groupes armés font leur entrée dans la nouvelle équipe qui est toujours dirigée par le Premier ministre Modibo Keïta. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'équipe gouvernementale était très attendue à Bamako. Finalement, la liste a été rendue publique par le ministre secrétaire général de la présidence. Le nombre de femmes passe de 6 à 8. Dans la nouvelle équipe, il y a 9 nouveaux ministres, 7 ont quitté. Parmi les ministres qui ont quitté, Zabi Sidi Mohamed a été remplacé par Mohamed El Mokhtar, un ancien ministre sous ATT, tout comme Tchamogo Sangaré qui hérite du ministère des Mines. Certains ministères ont été scindés, à l'image de la culture qui se détache de l'artisanat, désormais dirigé par Nina Wallet Intalou, représentante de la CMA, ou encore la jeunesse et la construction citoyenne, un département qui sera dirigé par le nouveau ministre Amadou Koïta. Parmi les nouveaux entrants, on peut citer aussi Maître Mamadou Ismaël Konaté, qui dirigera désormais le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et Garde des Sceaux. Certains ténors se maintiennent dans l'équipe gouvernementale, comme Mohamed Ali Batili au ministère des Domaines de l'État, Amadou Konaté à la Solidarité et à l'Action Humanitaire, ou encore Tchema Hubert Koulibaly, qui reste à la défense. En tout, il y a 34 portefeuilles ministériels contre 32 pour l'équipe sortante. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, 6 fidèles tués aujourd'hui dans un attentat suicide contre une mosquée à Damboa dans le nord-est du pays. Une attaque imputée par l'armée nigériane au groupe islamiste Boko Haram. Selon le colonel Sani Usman, porte-parole de l'armée, un premier attentat visant la grande mosquée de la ville a été déjoué. Un suspect s'est fait exploser près du bâtiment. Mais un second kamikaze a réussi à pénétrer dans une mosquée plus petite où il a déclenché sa bombe, se tuant lui-même ainsi que 6 fidèles et blessant une autre personne. et toujours au Nigeria, le groupe des Vengeurs du Delta du Niger a revendiqué le sabotage de l'oléoduc d'une filiale de la société pétrolière italienne Eni par un commando d'hommes armés arrivé en hors-bord. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.